48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à tous pour notre 32e MAG 48 FM, un MAG particulièrement riche aujourd'hui puisque nous avons 4 structures invitées et 5 invités, donc avec Laurent Joyeux et Dominique Brun pour la Mostra, nous avons Céline et Mesut Ayilidiz, excuse-moi, c'est pas facile, pour le club de basket, et Ludovic Vessette, qui est co-président du comité des fêtes du Massegro, qui vient nous parler de la foire qui a lieu demain sur le Massegro, ça c'est facile. On va commencer...
Et puis on aura aussi l'association qui organise la montée historique, tout à l'heure.
Ben voilà, qui vont arriver.
Voilà, qui sont pas encore dans le studio, mais qui vont pas tarder.
Ah oui, mais si on me fait parler de gens qui sont pas encore dans le studio, moi je suis en totale panique.
Aujourd'hui, il y a du monde. Voilà, c'est...
Il y a du monde, il y a du lourd. Et on a donc Nico à la technique, à la question, qui vient co-animer cette émission. On démarre par la Mostra. Messieurs, deuxième lèche-vitrine d'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire, ou d'où ça vient, où ça va ?
Donc, bonjour. Laurent, oui, voilà.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
L'histoire, tout simplement, elle est liée à une idée de Dominique Brun, président de l'association Les Interstices, qui se désolait de voir les vitrines du centre-ville se déserter, en tout cas un centre-ville se dévitaliser, vitrines se fermer, des magasins se fermer. Et donc Dominique a eu l'idée de me solliciter et nous avons ensemble imaginé une manifestation qui puisse investir les vitrines vacantes, mais aussi les commerces ouverts du centre-ville de Mende pour y proposer de l'art contemporain. Pour le dire vite, art contemporain, nous avons un rapport assez décomplexé avec ce terme. C'est l'art d'aujourd'hui, la création d'aujourd'hui. Donc vous verrez... au fur et à mesure de vos pérégrinations, de vos déambulations dans le centre-ville, plus de 37 œuvres, des photos, des sculptures, des installations qui vont faire jaser.
Ah.
Il y en a une d'ailleurs à l'office du commerce, et je pense que dès qu'on va monter le rideau, ça va être très drôle.
Bon, alors,
On a installé des œuvres chez les pâtissiers, chez les cordonniers, on se régale, voilà.
Nicolas en petite tenue, non, quand même pas.
Juste l'eau.
T'aimerais bien.
Moi j'attends ça.
Oui, mais moins poilu quand même.
Ah bon, comment tu le sais?
Alors, c'est ce que je vois.
Il y a un nom cette année, il y a une thématique abordée ou pas du tout?
Exactement. Comment l'as-tu deviné, Nico, qu'il y a une thématique?
Parce qu'année dernière, c'était un monde merveilleux. C'était vraiment merveilleux l'année dernière ou...
Ah, plus que merveilleux. On aurait dû mettre un monde plus que merveilleux. Donc cette année, on s'est limité au réenchantement poétique du quotidien. Mais ça
c'est
sera plus que poétique, plus que quotidien, plus que réenchanté.
Alors, grâce à vous Dominique tous. Brun, que vous connaissez peut-être, alors pas forcément sa voix, mais en tout cas son travail dans le monde de l'art, puisqu'il a animé beaucoup de choses, monté pas mal d'associations sur la ville de Mende, et il remet ça voilà, pour la deuxième... pourquoi avoir remonté une association sur l'art contemporain, Monsieur Dominique Brun?
Monsieur Nicolas, Maître Nicolas, donc une association sur l'art contemporain, l'association s'est un peu filée dans l'idée. Hein, donc il y avait une idée et il fallait un dispositif pour faire vivre l'idée et ça a été l'association. Voilà.
Alors pourquoi l'art contemporain dans des vitrines? Parce qu'on peut se dire, bon, il y a bien des lieux d'exposition, même s'ils ne sont pas fabuleux sur la ville de Mende, on pourrait imaginer une expo d'art contemporain. Pourquoi avoir choisi le support des vitrines?
Ben justement, donc, il y avait ce qu'a dit Laurent, hein, le fait que ces vitrines étaient dévitalisées, étaient abandonnées, étaient en friche. Ça, c'était un côté. Et puis l'autre côté, qui est beaucoup plus centré sur la question de l'art contemporain, c'est l'idée de sortir l'art du musée et de faire un musée dans l'espace public, de faire que les œuvres soient accessibles à tout le monde, qu'on puisse les voir, les revoir. Quand on va dans un musée, lorsqu'on a lâché ses 10 ou 15 euros, ben on n'y retourne pas. Enfin, la plupart n'y retournent pas. Tandis que dans la rue, on peut y passer, y repasser. Et puis, il y a cette expérience intéressante de côtoyer les œuvres dans son quotidien. Bon, sachant que ça existe déjà, puisqu'il y a des sculptures, mais les sculptures sont des œuvres assez solides, assez costauds, qui ne craignent pas le contact rugueux au quotidien. Tandis que là, on met des œuvres beaucoup plus fragiles, beaucoup plus destinées à un contact intime, si on peut le dire comme ça.
Et plus liées à l'intérieur. Et...
Voilà, souvent confinées dans des espaces muséaux.
Donc on imagine que là, effectivement, vous avez la volonté de toucher un public peut-être plus large. Est-ce que vous, par rapport à la première édition, vous avez eu des témoignages, des bilans sur la fréquentation? Alors elle est difficile puisque là, on est sur du lèche-vitrine, mais sur les retours que vous avez peut-être déjà eus sur
ces... les traces de doigts, en fait.
Les traces de doigts. N'importe quoi, on est obligé de laver la vitre. Et visiblement, il y en a qui vont vraiment lécher.
Non,
en
plus, on a une réponse très précise à ce sujet puisque... Comme le disait Dominique, on souhaite toucher tous les publics. Donc, on a vraiment bien travaillé avec les écoles, collèges, lycées. Cette année, avec aussi les hôpitaux de jour, la maison d'arrêt, les lycées agricoles, la MSA, les agriculteurs. Nous, c'est notre but. Donc, on a une équipe de médiateurs auxquels il faut rendre hommage. Et dès l'an dernier, dès la première année, on a organisé 45 visites guidées avec plus de 800 visiteurs, des gamins comme des personnes âgées. Donc, on peut comptabiliser, évidemment, l'espace public, hein, l'intervention artistique dans cet espace, elle est difficilement comptabilisable. Mais de toute façon, nous, ce qui fait notre joie, c'est qu'il y ait une fréquentation quotidienne pour des publics qui, voilà, qui
le
se
badaud.
Promènent.
Le badaud.
Tout à fait. Et tous les publics, il y a des œuvres là, en face de chez vous, qui ont fait plaisir, jaser, qui ont déplu. Le fameux poulet sans tête. Mais en tout cas, voilà, nous, notre idée, c'est aussi que l'art, entre guillemets, la création, pour le dire tout simplement... C'est un lieu de débat, d'échange, de contradiction. C'est la création, on en parle, on n'aime pas, chacun s'exprime.
Ouais. Une création qui est contemporaine, ça veut dire qui est faite par des artistes vivants ou
oui,
pas
mais
forcément.
Assez exceptionnellement, cette année, on s'est fait prêter des œuvres d'art brut, de Saint-Alban, notamment d'Auguste Forestier, des œuvres très très précieuses, qui ne sortent plus, qui nous ont été prêtées par le Conseil Général et par un propriétaire privé, qui ont une valeur d'assurance très importante. Et qui là, du coup, bon, sont des œuvres réalisées par Auguste Forestier, qui est décédé, mais qui résonne avec l'ensemble de la manifestation, et notamment avec la thématique.
Alors justement, comment se fait ce choix artistique? Pourquoi choisir telle ou telle œuvre, et pourquoi les mettre dans telle vitrine ou telle autre?
Alors, pour la direction artistique, avec Dominique, nous avons constitué un petit collège de travail. On a un premier choix. De toute façon, il faut savoir que par rapport à l'expérience de l'an dernier, on a eu... des bonnes surprises et puis des choses qui ont moins bien fonctionné parce que c'est vrai que le contexte de la vitrine, c'est un contexte un peu spécial. Des fois, il y a des pièces qui circulent bien avec la vitrine, par exemple le cœur de Armel Caron, le néon dans la boucherie. Fallait le voir toute la journée, la nuit, le jour, mais ça a été un peu une surprise. Donc on constitue ce groupe de travail et puis après, c'est un échange contradictoire, un débat et on s'arrête sur un certain nombre d'artistes. Donc aujourd'hui, il y a 4 artistes invités dont vous pourrez croiser en ville dès cet après-midi. Sylvette Arduano qui fait aussi des résidences d'artistes dans les maisons de retraite et dans les écoles élémentaires en ce moment, Agnès Ross et Jérémy Gobet et des photos d'Hortense Soachet. Puis ensuite on s'est fait prêter des œuvres que l'on a choisies ensemble à partir de la thématique par le musée de Sérignan, le musée régional d'art contemporain de Sérignan et par le fonds régional d'art contemporain du Languedoc-Roussillon. Et après il y a des œuvres d'art brut, il y a des réalisations autres, il y a aussi deux super partenariats qu'il faut bien souligner. Un avec les écrans de Lozère, on travaille autour de l'œuvre de Michel Gondry. D'ailleurs, hier soir, il y avait l'avant-première, il y a des ateliers, il va y avoir des jeux en vitrine. Et aussi avec les scènes croisées de Lozère, autour d'un travail un peu sulfureux de Pierre Molinier, qui est Mes jambes, si vous saviez, dont vous, j'imagine, vous reparlerez, avec une performance samedi prochain à 21h qui risquait d'être un peu chaude.
Voilà, dernier
cette
au moins
année,
18
vous
ans.
Nous annoncez du chaud quand même. Hein
contemporain, c'est chaud.
C'est le président.
Vu le climat qu'on a eu, il fallait quand même réchauffer. Alors on a vraiment annulé la première programmation pour la réchauffer de 2 ou 3 degrés.
Oui, on a un slogan, hein, Mende est la ville la plus sexy du monde.
D'accord.
Tout simplement.
Oui, sexy. Après les sportives, écoutez.
Mais très tard la nuit. Et voilà.
Ouais, ça, on ne va pas dévoiler les nuits.
Alors qu'est-ce qu'en pensent nos autres invités?
Est-ce qu'on peut être sportif ou à masse gros et être sensible à l'art, contemporain?
Moi, je trouve vraiment, j'en avais jamais entendu parler de cette action. Je trouve que c'est vraiment une action, voilà, quoi, qui est un peu banale. Et deux, qui, voilà, c'est, elle est quand même bien ancrée à la ville de Mende, quoi. Je veux dire, ça se fait uniquement ici, quoi. Et je trouve que c'est une très,
parce
très bonne idée.
Parce qu'il faut des vitrines. C'est vrai que dans d'autres villes, il y a un peu moins de vitrines.
Voilà, alors, on peut éventuellement imaginer que la boulangerie du Massogro puisse accueillir un jour de l'art contemporain.
Pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Si vous proposez, ce sera avec grand plaisir que le boulanger vous accueillera.
Faisons des petits. Et les sportifs, est-ce qu'ils sont sensibles à l'art, nos sportifs? Alors là, on les coince parce qu'on a décidé de faire parler tout le monde aujourd'hui. Mais...
Oui, s'exprime.
Bon.
Moi, personnellement, je connaissais pas trop. En étant jeune, je suis pas trop pour... je regarde pas trop les vitrines. Je suis pas très...
Très sensible à l'art contemporain.
Très sensible à ça,
ouais. Bon. Alors, il faudra organiser.
Est-ce que ça vous donne envie
maintenant, à partir de maintenant,
est-ce qu'il vous a donné envie d'aller voir?
Il faut intervenir. Moi, je vais intervenir là-dessus en tant qu'ancien basketteur, d'ailleurs.
Ah, ben, c'est ça.
Il y a beaucoup d'interactions dans ce studio.
De mon temps, le basket était un art.
Un art de rue.
Voilà, et le basket est un art. Et l'art qu'est le basket a besoin de créativité. Et justement, l'art peut apporter une sensibilisation, une inspiration, une façon de se remettre en question très utile dans le sport.
Ça peut être le thème pour l'année prochaine, non? Le sport et l'art contemporain.
Pourquoi pas? Moi, je suis un praticien, je fais du sport tous les jours. Moi, ça ne me dérange pas. Justement, ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est de combattre un peu les idées reçues. Alors ici, plus petit, tout ce que vous voulez, plus qu'ailleurs, parce que moi, je ne vois pas pourquoi on opposerait systématiquement l'agriculture à la culture, le sport à l'art, l'alimentaire. Enfin, voilà, c'est ce qui fait partie de notre vie au quotidien. Et je pense que là, vraiment, ce projet-là, d'inscrire vraiment... Pardon?
On n'a pas à choisir.
Oui, non.
On n'a pas à choisir, c'est ça qui est bien.
On peut faire du sport, aller au musée l'après-midi, bien manger, être avec des amis. Enfin, bon, rien, moi, je n'ai pas excluant, vraiment. Je pense que justement, le fait de montrer des pièces comme ça, de façon très libre, on n'aime pas, mais comme ça, dans un contexte qui est un contexte urbain, ouvert, voilà, c'est une proposition. Et ça permet justement de relier, enfin, moi, je pense beaucoup à ça, de relier des choses qui, dans notre société aujourd'hui, sont tout le temps opposées. Alors, en Lozère, alors, on en sortirait, mais c'est pareil dans le monde urbain contre le rural, alors qu'on sait aujourd'hui très bien que la plupart d'entre nous, on vit et dans le rural et dans l'urbain, et en tout cas, c'est des complémentarités. Il faut penser les choses de façon plus voilà, prospective que de façon...
Alors, le fait de mettre comme ça dans des vitrines des objets d'art ou des formes particulières, est-ce que, du coup, vous cherchez quand même, vous avez suscité la réaction? Est-ce que vous avez mis en place un système pour évaluer cette réaction? Ou est-ce que les gens sont libres de marquer quelque chose? Alors, en général, on a un petit bouquin où on marque à la sortie de l'expo. Est-ce que là, vous avez prévu, je ne sais pas si c'est sur Internet ou sur les vitrines, de marquer un petit mot?
Non, mais il y aura lieu d'accueil, donc la maison consulaire, ouverte tous les jours. Hein, donc, je pense qu'on recueillera, entre autres, les réactions.
D'accord.
Et on aura évidemment un livre ou un cahier dans lequel on écrira les réactions.
Et il n'y a pas un site Internet avec un blog où on peut... Non? De prévu, monsieur?
Il y a un site Internet sur lequel on n'a pas prévu un blog. Moi, je dirais, c'est comme l'évaluation, le nombre de visiteurs, enfin, tout ce qui est comptabilisation. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est la liberté. Ils ne sont pas obligés de nous le dire à nous. Ils savent où nous, nous trouver. Hein, si on veut me dire ce qui ne va pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, m'engueuler, on sait où me trouver. M'en est pas trop grand. Non, et je dirais, ça ne pose pas de problème, mais pour me faire des éloges, parce que ça a été des éloges, mais je ne voulais pas mettre ça en avant. Écoute, Nico, tu aurais dû le comprendre. Que
non, c'est modestie, quand on suscite la réaction, c'est intéressant de la capter après. Enfin,
ma modestie gigantesque m'empêchait de rentrer dans...
Oui, non, mais de toute façon, là, le fait de proposer, c'est très intéressant parce que là, on a un accueil de la part des commerçants qui est vraiment très, très, très agréable, très ouvert. Et là, donc, ce matin, j'ai posé deux pièces, donc chez le cordonnier Pia et chez le pâtissier Bringer. On voit très bien qu'entre l'an dernier et cette année, il y a déjà une volonté.
Une familiarisation.
On attend vos œuvres dans les vitrines.
Ils attendent.
Quelles sont les réactions des commerçants?
Certains sont déçus de ne pas recevoir des...
Ah oui, tout le monde, il n'y en a pas pour tout le monde.
Ah oui, tout à fait. Et donc, bah oui, puis les pièces qu'on leur propose, sont des œuvres parfois un peu voilà, rugueuses, hein, qui oui. permettent de, qui suscitent le dialogue et ils sont prêts à l'assumer.
Et ils ont un droit de... Enfin, j'imagine que ça se fait dans le dialogue, mais est-ce que sur le choix de l'œuvre qui sera dans la fameuse vitrine, est-ce que c'est, comment ça se passe pour qui accueille quoi et...
On fait un choix commun, évidemment, avec Dominique. Et ensuite, moi, je prends le temps de leur présenter les pièces qui seront exposées dans leur vitrine. Je l'ai dû faire un petit tour il y a un mois, à peu près.
D'accord.
Avec le nom de l'artiste, toutes les informations. Et la plupart du temps, c'est des œuvres qui parlent, qui dialoguent avec le...
Avec la fameuse vitrine de commerce en question.
Vous verrez chez Bringer.
D'accord. Il n'y a pas un poulet, par exemple.
Ça doit nous proposer un réenchantement poétique du quotidien. Ça veut dire précisément quoi ? Réenchantement poétique du quotidien, cette thématique.
Bonne définition. Il faut... Voilà, bon, on est quand même dans une...
Les questions pièges, c'est lui, hein, les questions...
Non, c'est une question de faire valoir. Il cherche à nous faire valoir. Donc. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une période où le désenchantement est quand même la posture officielle qu'il faut garder, qu'il faut tenir. Et après, il y avait la question de l'enchantement attendu de l'économique. On a vécu toute une période où on attendait que l'économique nous fasse vivre heureux, plus heureux. Mm-hmm. Et que là, je crois qu'il y a un retour de manivelle où on en prend plein la gueule. C'est pas mal, d'un certain côté. Hein, ça n'a pas que des avantages. Et la question de l'enchantement de notre vie passe par autre chose. On peut vivre modestement et enchanté, joyeusement et paisiblement. L'art est là pour soulever, enfin, de notre point de vue, ce questionnement et cette réinterrogation. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va présenter va réenchanter. Hein, le quotidien, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais que ça soulèvera la question de dire l'enchantement du quotidien, ça passe par autre chose que par l'économique. Il en faut un minimum, hein, je n'ai pas dit ça. Le contraire. Hein. Mais quant à mettre tout de ce côté-là, ça, c'est une autre question.
Oui, parce que préalablement, il y a la question du lien social dans un centre-ville. Hein, d'où l'idée de réhabiliter le centre-ville ou le cœur de ville, qui est le lieu de vie. Voilà, le marché aujourd'hui, les gens se rencontrent, les cultures se rencontrent, les générations se rencontrent. Elles se frottent, mais au moins, voilà, ça se passe. Et une des fonctions aussi de ce type de manifestation, mais ça, je parle aussi de façon plus générale, hein, de la culture avec d'autres manifestations dans les espaces urbains, c'est aussi de remettre du lien. Il y en a plein d'autres choses qui mettent du lien.
Hein, l'art dans l'art.
L'art, le sport, la culture, voilà, mm-hmm. tout ça. Mais on voit bien qu'à un moment, ça y participe.
Ouais, c'est un vecteur d'humanité.
Je pense que les personnes présentes ici autour participent à leur manière à ça, cette question de remettre du lien, à travailler avec des gens différents, rencontrer l'autre dans ce qu'il est.
Dans d'autres circonstances, oui.
Voilà,
tout à fait.
Pardon.
Je t'en prie.
Alors du coup, ça pose la question aussi, peut-être, je te coupe juste, Dominique.
Je vois.
Excuse-moi
de ne pas t'avoir posé la question avant que tu y répondes.
De se dire, est-ce que finalement on a besoin de grosses infrastructures comme des musées d'art contemporain, comme celui de Sérignan, etc., dans nos espaces publics aujourd'hui, ou est-ce qu'il ne faut pas, enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'abord d'avoir une relation directe avec les œuvres ? Et par ça, ce que vous faites...
Voilà, ce qu'on me propose, c'est quand même une expérience qui va tout à fait dans ce sens-là, de dire où est le lieu de l'art, où est l'espace de l'art, est-ce qu'il faut en effet des lieux dédiés, ou est-ce qu'il faut que tout se passe dans les lieux dédiés, ou est-ce qu'il y a un rééquilibrage, en sachant évidemment qu'une manifestation comme la Mostra, par rapport à entretenir un musée pendant la même période, ça a un coût phénoménalement moins important. Hein.
Bien sûr,
oui. Oui, parce que de toute façon, un même musée... pour reprendre des considérations économiques telles que les exposait Dominique, aujourd'hui, un musée d'art contemporain ou un centre d'art en Lozère, ça paraît un peu utopique. Mm-hmm. Donc, il faut trouver d'autres solutions.
D'accord. Et bien là, je crois que vous avez trouvé quelque chose d'assez innovant. Alors, moi, je vais faire l'idiot, mais c'est souvent mon rôle à la radio. L'année dernière, je l'ai découvert...
Ne force pas.
Non, je vais essayer de ne pas en faire trop. Mais j'ai découvert complètement par hasard ces œuvres dans les vitrines. Et je vais vraiment faire l'idiot, mais j'ai pas tout bien compris au début. J'avais pas compris ça faisait partie d'un tout, qu'il y avait éventuellement un parcours, ou comment on fait si on n'a pas eu la chance d'écouter la radio aujourd'hui, ou de nous réécouter, comment on fait pour être sensibilisé à toutes ces vitrines, pour éventuellement ne pas en rater? Parce que quand je me suis réveillé et que j'ai réalisé que ça faisait partie d'un tout, je me suis dit, mais j'ai peut-être raté des vitrines. Est-ce qu'il y a un lieu ressource un peu où on va pouvoir partir, est-ce qu'il y a un guide,
Donc nous avons imprimé, nous devrions le recevoir aujourd'hui, un journal de 4 pages avec le plan et le parcours, que l'on diffusera dans tous les commerces de la ville, dans tous les lieux publics. Ensuite, on essaie effectivement d'être présent le plus possible sur l'ensemble des médias lausériens. Donc il y a des articles dans Midi Libre, la Lozère Nouvelle, de façon à ce que tout le monde soit informé. Après, évidemment, il y a les radios.
Surtout 48 FM. Hein.
Et sûrement. Bon,
principalement, il faut bien le reconnaître.
Après, juste après, il y a France Inter. Mais...
Après, évidemment, ça, à partir du moment où on n'a pas une signalétique suffisamment présente, telle que pourrait l'avoir d'autres gros événements, donc ça, c'est une question de moyens, hein, évidemment. Hein.
Bien sûr.
Ou d'un kakémono ou d'un banderole de pont, plus le poser, ça a une importance. Bon, il y aura cette possibilité, cette difficulté-là. Mais je n'exclus pas qu'à un moment, on puisse avoir des moyens financiers qui nous permettent d'avoir une signalétique urbaine bien plus présente. Donc cette année, on devrait avoir posé 5 kakémonos aux entrées de ville, du cœur de ville. Normalement, on devrait, dans les années futures, avoir une
toujours avoir une marge de progression, hein, sinon c'est pas rigolo.
Oui, oui. En plus, comme vous le précisez, l'ambition, c'est de vraiment toucher toute la population. Donc il faut s'en donner les moyens à un moment. On ne fait pas un événement pour qu'il soit confiné justement dans l'espace public pour quelques personnes.
Donc vous envisagez la prochaine édition déjà ?
Évidemment.
Vous ne l'avez pas vu, chers auditeurs, mais ils se sont regardés. Il y a eu un échange de regards très, très, très intense.
Profond qui alors,
on va déjà terminer celle-là.
Non, ouais, pour dire, aller jusqu'au bout, il y a des questions financières, hein, sur des projets comme ça, et que c'est vrai qu'un projet comme ça, qui est un projet qui a un plan de montée en puissance, si on n'a pas les financements, on ne peut plus monter en puissance. Si on n'a plus de montée en puissance, est-ce qu'il faut...
Continuer
hein, sur quelque chose qui cherche sa mesure, qui cherche sa dimension, qui expérimente. Hein, tout à l'heure, on évoquait de dire comment se conçoit une programmation. C'est très, très compliqué. Et en effet, il n'est pas envisageable que chacun choisisse une œuvre. C'est très compliqué et on peut tout rater. Hein, on peut passer à travers. Même, on le voit dans les plus grandes institutions. Je dirais, pour moi, il y a des expos qui sont loupés, avec des gens très, très bien et très compétents qui les montent, mais qui, voilà...
Qui passe pas, hein,
quelque chose bon, qui
ne sera pas a priori l'édition de la Mostra de cette année, non. Qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On nous a déjà promis des vitrines alléchantes.
Et alléchées
aussi. Alors, pas de grands scoops si aujourd'hui, mais par contre, alors on lève le rideau quand ?
Alors, il va y avoir une apparition des vitrines au fur et à mesure de la semaine, donc la plupart demain.
D'accord.
Puis jeudi, et le vernissage de la maison consulaire et des photographies et des vidéos de la compagnie La Grande Mêlée, samedi, à midi, avec la performance samedi soir. Donc, le rideau sera définitivement levé le samedi à midi.
Le samedi à midi, on a combien de temps pour pouvoir faire du lèche-vitrine d'art contemporain ?
Chacun lâche à sa manière.
on a jusqu'au 26.
Il faudrait que je fasse attention à mes questions pour pas. Ouais.
Bébé les arts et papa les arts.
Il y en a qui prennent le temps.
Il y en a qui prennent le temps et on a jusqu'au 26 mai pour, pour pouvoir avoir ces.
Tout à fait.
D'accord. Donc on a un peu de temps. Je crois qu'on a notre technicien qui nous rappelle à l'ordre. Le problème, c'est que quand il y a Fredo et Nico à l'animation, en général, on double le temps pas. Du magazine.
Ouais,
merci Ludo pour nous remettre à l'ordre. Et donc, on va devoir passer au sujet suivant. Et
voilà, une petite pause musicale. Petite
pause musicale.
Donc, redire que vous pouvez, dès cette semaine, commencer à voir les œuvres dans les vitrines. N'hésitez pas, plus sur Admonde, plus c'est intéressant, plus vous pouvez interagir aussi. Venir voir ensuite l'inauguration, enfin le moment de
vernissage.
De vernissage. Voilà, chercher le mot, merci Dominique. Samedi, à quelle heure ?
À midi.
À midi, voilà, à la maison consulaire. Venez nombreux, plus sur Admonde, plus voilà, cette expérience interactive et contemporaine pourra trouver sa place sur le territoire. À bientôt et merci.
C'est nous qui vous remercions.
Merci à vous. You.
FM Le Mag.
Et bonjour, excusez-moi, j'avais pas mis le casque. Nous revoilà pour cette deuxième interview, deuxième partie de notre magazine avec Céline Hay et Mesut Ayazid. Oh, j'arriverai pas, je crois. Et puis en plus, j'ai attrapé un chat dans la gorge, excusez-moi, qui sont tous les deux du basket COS Mandois, c'est ça ?
Bonjour déjà, oui.
Bonjour Mesut et bonjour Céline. Alors Céline est une joueuse, Mesut est un entraîneur, c'est
voilà.
Ça ? Enfin, a priori j'ai compris que Mesut n'était pas une joueuse.
Voilà, c'est ça.
Chers auditeurs, avec
très bonne déduction, hein, très très bonne.
Est-ce que, et alors donc la championne, c'est Céline, championne avec son équipe.
Voilà, tout à fait.
Championne du Gard. Alors, il va falloir nous expliquer un peu ça, puisque, chers auditeurs, nous ne nous sommes pas trompés, nous sommes toujours une radio lausérienne, c'est toujours 48 FM, mais c'est toujours un club lausérien, mais par contre qui
je
a
crois
été...
que c'est même le seul club, c'est ça, de basket
qui est le seul club de basket de Lozère, ce qui explique peut-être ce déménagement de championnat, mais vous avez quand même été leur piquer le championnat.
Voilà.
Et on ramène donc...
On pique les champignons, on prend le championnat.
Ah, joli.
Ouais, ça commence pareil.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette équipe, d'où elle vient ? Est-ce que c'est une culture... avant qu'elles le disent, elles disent « Ouais, on parle du foot, on parle du volley, on parle jamais du basket. » Alors, chose est faite, réparation est faite, en tout cas sur 48 FM,
merci
on va
beaucoup.
Parler basket. Forcément, si on n'en parle pas assez, il faut que vous nous expliquiez, un petit peu tout et d'où vous venez et où vous allez.
Donc, à Lozère, il y a 10-15 ans, il y avait plusieurs clubs de basket. Dans toute la Lozère, il y en avait 4-5 qui étaient bien dispatchés. On avait un petit championnat. Au fur et à mesure, il n'y a que le basket COS Mandois qui est resté actif dans la Lozère. Et comme on ne peut pas avoir de championnat en Lozère, on est parti dans le Gard. Mais on a fait plusieurs championnats. On n'a pas fait que le championnat du Gard. On était dans l'Aveyron. On a été en région et là on est reparti dans le Gard. C'est une équipe différente de par rapport aux années précédentes.
D'accord. Championnat plus difficile, plus. Plus facile, ouais. En même temps facile, vous êtes champion.
Oui, mais l'effectif, c'est pas.
Déjà, ils sont champions de Lozère.
Voilà.
Déjà, c'est un champion départemental.
On a eu un effectif cette année qui était pas mal, en fait. Mm-hmm. Avec des nouvelles joueuses qui sont arrivées.
Donc là, vous avez un effectif de combien sur le club?
On joue à combien dans une équipe de basket?
Alors, on joue à 5 sur le terrain et on pêche qu'à 10 sur la feuille de marque.
D'accord.
À notre niveau, parce qu'en championnat, au niveau professionnel, ils peuvent être jusqu'à 12 sur feuille de marque.
Et donc vous êtes une équipe, toujours 5
sur le terrain. Mais toujours 5 sur le terrain.
Que dit l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur recrute pour l'année prochaine?
Oui, l'entraîneur recrute évidemment pour l'année prochaine.
Alors, donc, attention.
Si vous voulez essayer, il n'y a pas de problème. Donc, en début d'année, on était bien 10-12 joueuses, mais 2-3 joueuses sont parties pour les études. Il y en a pas mal qui se sont blessées au cours de la saison. Donc là, actuellement, on est 7-8 joueuses. Mais bon, c'est des bonnes joueuses, quoi. C'est pas... On va pas dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises. Si on a une bonne équipe,
c'est un temps que des bonnes.
C'est
une équipe où il n'y a que des bonnes joueuses.
Avec des...
Combien était payé l'entraîneur pour venir
là,
dire ça là,
je suis bénévole.
Rien du tout, en plus.
Je suis bénévole.
Bon, alors, en plus, ça a l'air sincère. Donc,
elles sont quasiment invaincues, c'est bonne chose, c'est ça?
On n'a eu qu'une seule défaite.
Alors sur combien de matchs?
Sur 20 matchs, on a...
Une seule défaite sur...
Une seule défaite. Sur un match.
Vous êtes
de 2 points après prolongation quand même.
Ouais, c'est
une... Vous êtes comme la FL, quoi. Enfin, la FL n'a pas été du tout vaincue, mais voilà. A juste fait un match nul hein, pour l'instant.
Voilà.
Donc mais vous voilà. Êtes... Voilà, c'est bien. Donc ouais. ça donne quoi en termes de résultats?
En termes de résultats... En fait, moi, en début de saison, je ne pensais pas gagner directement le championnat. Je voulais voir déjà mon effectif faire tourner, mais on a vu que l'équipe fille était très forte, en fait. Moi, je ne voyais pas qu'on était autant forte.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai été un peu surpris, mais je savais que je pouvais compter sur mes joueuses qui...
Et c'est lié à quoi, ça, en fait? C'est lié à l'entente qu'il y a entre les filles, à leur qualité personnelle? Comment vous analysez ça?
Surtout à l'expérience. Parce qu'en fait, j'ai deux joueuses particulièrement, une présente à côté de moi et une autre, qui ont joué dans un bon niveau. Qui apporte.
À quel niveau c'est?
National.
National. Et une autre joueuse qui est Aurélie Tricouard, qui était en national aussi, qui apporte vraiment à l'équipe.
Alors, quelles sont les qualités d'une bonne joueuse? Si vous pouvez les définir. Qualités, c'est la taille, par exemple.
D'être pas trop râleuse.
Non, il faut râler.
Taille,
il faut...
Pas de quoi tu parles.
La taille au basket n'importe pas pour moi.
Ah,
parce
d'accord.
Que je suis petit détail, mais je joue au basket.
Et effectivement, nos auditeurs n'ont pas la chance d'avoir l'image, mais on va pas trahir. Mais vous n'êtes pas au-delà des 1m80. On est en dessous des 1m80 pour nos deux auditeurs.
On est 1m70 même pour moi. 65.
Et on s'attendait à devoir agrandir le plafond, mais pas du tout.
C'est la détente, c'est ça ce qui est...
Alors qu'est-ce qui fait que, effectivement, ça c'est incroyable, on n'est pas obligé d'être grand pour jouer au basket?
En fait, plus on est grand, moins on a de facilité on est bête, à jouer.
Non.
Parce qu'on a des membres trop grands et que ça prend beaucoup plus de temps de les faire bouger.
De facilité. Plus on est petit, plus on est vif, plus on est...
Ouais, c'est ça.
On se faufile.
Si vous voulez aussi, les auditeurs, vous venez pour l'année prochaine, vous verrez que c'est deux styles différents. J'ai une joueuse qui joue, Céline qui joue rapide, agressif, bien... Et une joueuse qui est plus posée, qui, avec sa taille, rattrape.
Donc c'est la complémentarité entre les joueuses qui est importante.
Voilà.
D'accord. Alors Céline, vous avez vécu ce championnat. Comment vous pourriez, vous pourriez nous en parler un petit peu? En termes de, je sais pas, d'équipe, de fonctionnement entre vous, les filles, vos entraînements.
Tu peux aussi balancer sur l'entraîneur. Hein,
d'accord. Non. Mais le début de saison, on a eu une équipe très très motivée de suite qui avait envie de bien faire et d'avoir des résultats. Alors, un petit peu freiné par le fait que c'était un peu une équipe en reconstruction et avec notamment des joueuses qui arrivaient, malgré leur niveau, qui devaient s'adapter au jeu collectif qu'on avait en place depuis plusieurs années. Et la mayonnaise a pris très très vite entre nous. Même limite, j'irais pas dire trop vite, alors moi je suis très perfectionniste, mais on a eu beaucoup de victoires faciles. Et ces victoires faciles ne nous ont pas forcément permis de travailler collectivement. tellement, voilà, tellement on pouvait mener facilement.
Alors, ça voulait expliquer comment que vos adversaires étaient faibles en face ou que
c'était une question forte.
Vous étiez trop forte.
Autant toutes joueuses de l'équipe étaient mais vraiment avaient envie. Et au-delà de la taille, ce que disait Missoud sur la vivacité, etc. Il y a surtout l'envie qui fait pour beaucoup.
La détermination.
Et on peut être très faible techniquement, mais très fort moralement et physiquement, et rattraper la différence. Comme certaines joueuses qui ont, notamment deux petites jeunes qu'on a dans l'équipe, qui ont 15 ans, donc qui sont surclassées pour jouer avec nous, donc qui ont forcément moins d'expérience et moins de technique que certaines, mais qui ont compensé tout au long de l'année par leur envie, leur présence aux entraînements.
Leur dynamique. Ouais.
Et leur dynamique.
Elles ont pas mal apporté, je trouve. Parce que nous, il y a certaines joueuses qui sont frustrées. Ouais, je joue pas. Mais alors que les petites cadettes, elles sont là, elles écoutent, attentives. Même si elles jouent pas, elles sont concentrées, elles regardent. Début de saison, elles n'avaient pas joué dans un championnat. C'est pour ça que c'était difficile pour elles. Mais en fin de saison, la conclusion que je vois, c'est que ces deux joueuses, dans quelques années, elles vont devenir fortes. Elles vont réussir à jouer un match entier. Là, elles y arrivent. En fin de saison, elles y arrivent. Elles jouent tout 40 minutes, alors qu'au début d'année, elles avaient joué 0 minute. Elle m'avait dit, j'ai fait des changements. Elle me disait, non, on ne veut pas rentrer. Non, elles étaient stressées. Mais alors que maintenant, motivées, plus motivées que jamais. Donc, c'est l'avenir du club. Donc
là, vous avez combien de licenciés au club ?
Au club, on tourne entre, en filles ou en général ?
En général,
on tourne entre 80 et 100 licenciés.
D'accord. J'ai une grosse fourchette. Pour le club, c'est les féminines.
Alors, il y a les féminines.
Ce n'est pas coutume ? Ou est-ce qu'il y a aussi une élite masculine ?
Il y a quand même une élite masculine qui est en train de se créer petit à petit. Donc, qui a commencé à un noyau de joueurs qui s'est créé l'année dernière. Donc, il faut savoir qu'ils ont gagné un match sur la saison entière l'année dernière. Et que là, il leur reste un match à cette équipe et qu'ils sont à 50% de victoire, 50% de défaite. Donc il y a une nette évolution.
Ils évoluent eux aussi dans un championnat...
Championnat départemental aussi. Voilà, dans le Gard, également.
Alors ce championnat, il a été remporté. C'est quoi la suite pour vous ?
Bravo. Merci.
C'est quoi la suite ? Donc on monte d'un cran, là. C'était facile cette année, visiblement, on s'est baladé. Mais
c'est classé comment, en fait, là, le basket, pour expliquer ? Est-ce qu'en foot, on sait à peu près, DH, DHA, etc.
Monte en régional, mais en régional, il y a plusieurs niveaux. Mais nous, c'est pas DH, DHR, c'est régional 2, régional 1, pré-national, national 3, national 2,
national 1,
pro B, pro A. Donc, c'est...
On a un peu de chemin encore pour le pro A. Mais bon, on est sur la bonne voie.
Non, mais déjà, de grimper, c'est bien. Hein. C'est l'objectif de chaque club, d'arriver à gagner des galons et puis de
non, puis on espère... excuse-moi, Nicolas. On espère se faire connaître un petit peu plus sur la Lozère. Parce que, effectivement, 80 à 100 licenciés, c'est pas énorme si on se compare au foot, par exemple, à l'AFL. Mais ça reste quand même un nombre de licenciés. Et à l'heure d'aujourd'hui... Au-delà des moyens financiers, on a des soucis de problèmes de structure.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on s'entraîne dans un gymnase et on fait nos rencontres dans un autre.
Effectivement. Ouais.
Par rapport à des mesures de sécurité.
Là, actuellement, vous entraînez où ?
Alors, on s'entraîne au lycée Chaptal et on joue au collège Saint-Privat.
D'accord.
Voilà. Donc, on ne peut plus jouer au lycée Chaptal les matchs parce qu'on a les cages de hand du lycée qui gênent. On ne peut pas les enlever. Donc, au niveau réglementation de taille de terrain, on n'est plus dans les clous. Donc, on s'est fait rapatrier sur le collège Saint-Privat, qui a bien voulu nous dépanner, moyennant finance sur le collège. Mais de faire les entraînements dans un gymnase, les matchs dans un autre, c'est comme si on jouait à l'extérieur tous les week-ends. Donc
on cherche un gymnase pour l'équipe de basket.
Alors on sait qu'il n'y a pas de construction prévue, voilà. On sait qu'il y a d'autres priorités avant ça, et ça s'entend aussi, il ne faut pas non plus...
Le street basket, peut-être.
Non,
mais peut-être pas. Aménager ce qui existe.
En tout cas, déjà aménager ce qui existe.
Le rendre homologué pour que vous puissiez à la fois avoir vos matchs et tout vos entraînements sur le même endroit.
Parce qu'on peut pas se... On a une école de basket aussi. Hein. On a des petits qui sont entraînés par Olivier Delaby, notamment. On a des cadets qui sont entraînés par Aurélien Simon. On a quand même des gens derrière. Mais si on n'a pas les structures pour pouvoir encadrer les gens d'une manière correcte, on peut pas demander aux gens de venir jouer au basket si on n'a pas les structures pour les encadrer.
D'accord.
Donc de l'encadrement et, sur en fait, et de la structure.
Piancourt, non, c'est réservé au volet, quasiment. Ouais. Et ce qu'ils s'entendent, ils sont aussi 200 licenciés minimum.
Chacun a son propre gymnase.
C'est sûr, c'est sûr. Pas multiplier.
Nous voilà, on ne demande pas un gymnase neuf.
Mais de réhabiliter peut-être.
Voilà. Mais à la limite, voilà, d'essayer de trouver une entente un peu plus agréable avec le lycée Chaptal et pour pouvoir continuer à vivre notre passion de la balle orange dans ce gymnase. Quoi. Mais réhabiliter.
D'accord.
Pour ceux qui le connaissent, le sol est un peu abîmé.
On espère que les élus qui nous écoutent auront eu l'oreille attentive.
C'est
est-ce que vous en avez parlé donc, au président de la communauté de communes?
Oui, bien sûr.
Puisque c'est. Voilà.
Tout le monde est informé des soucis du basket.
D'accord.
Effectivement.
Bon, c'est déjà une bonne chose.
C'est vrai que les places sont chères dans nos gymnases.
Oui, non, mais il faut.
Parce qu'il y a, c'est une culture sportive. On a dit tout à l'heure qu'on avait une culture sur l'art à Mende, mais on a aussi et surtout une
pratique
culture
sportive qui est très, très importante. Très importante.
Effectivement, vu le climat, on est aussi sur des sports en salle. Mmh. Et c'est vrai que du coup, les salles sont forcément prises de. Prise par beaucoup de clubs et les places sont chères.
Même par les sports qui sont en extérieur qui viennent en intérieur.
En plus, alors là, ça va plus. Ouais. Donc, on souhaite à cette équipe féminine de continuer à monter les échelons. Déjà, la région Joli Challenge, donc Languedoc-Roussillon, avec des déplacements, on imagine.
Oui, mais qui seront plus agréables que les déplacements actuels.
D'accord.
Peut-être ce qu'on peut, nous, essayer de voir, c'est comment on peut rediffuser peut-être une des soirées de championnat en milieu de saison l'année prochaine.
Ça serait super.
Comme on l'a fait, nous, pour l'AFL. Pour l'AFL, rediffuser à un moment donné, voilà, pour familiariser aussi, puis faire en sorte que vous ayez du public. Parce que, est-ce que vous êtes suivi en termes de public?
Alors, on commence. Hein, on commence cette année un petit peu, tant par l'équipe masculine que l'équipe féminine. Mais à travers une page Facebook et à travers un blog, commence à faire un petit peu.
La plupart des gens, ils ne savent même pas qu'il y a un club de basket à Mende.
C'est vrai, vous n'êtes peut-être pas les plus connus. Alors que souvent, l'élite.
Vous n'avez pas invité un grand joueur de NBA français
On n'arrive pas à voir Tony Parker, hein, donc peut-être se rabattre sur Nicolas Batum quand il aura fini sa NBA.
Monsieur Parker, si vous nous entendez, l'invitation est lancée.
Voilà, juste pour donner un petit coup de pouce à cette association très dynamique.
Non, mais par contre, au niveau de la presse aussi, pardon, j'ai oublié la presse, qui joue bien le jeu hein, cette année, tant Midi Libre que Lozère Nouvelle.
Ouais. On voit beaucoup de choses quand même.
Ça commence à. Voilà, qu'il y a quelques années, c'était plus restreint, mais tous les week-ends, maintenant, on peut voir une petite partie sur le basket dans les deux journaux. Donc, déjà, on les remercie et on veut que ça puisse continuer pour.
C'est un peu le côté ingrat du sport. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas des résultats et tant qu'il n'y a pas un niveau d'élite un peu important, on n'en parle pas souvent. Même s'il y a un vrai travail dans les écoles, même s'il y a un vrai travail avec les jeunes, c'est souvent quand même l'élite qui porte le sport, et au moins dans les médias. Donc ce que vous êtes empressé de faire avec vos résultats, ce que vous ferez certainement l'année prochaine.
Et
en tout cas, ce qu'on entend, nous, des enfants qui sont scolarisés plutôt collège, lycée, qui pratiquent ce sport, hein. On entend beaucoup de joie et de remerciements pour ce que vous faites dans l'établissement parce que ça contribue aussi à vous faire connaître, puis ça dynamise ce sport. Et je crois que beaucoup de jeunes sont très très sensibles au basket. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le rugby, il y a aussi tous ces sports comme le hand, le basket, le volley, qui ont aussi leur lettre de noblesse et que c'est important aussi de les valoriser. En tout cas, on essaiera, nous, de notre côté, 48FM, d'essayer d'être votre relais l'année prochaine et de couvrir peut-être quelques matchs.
Enfin, si vous gagnez, hein, que ce soit clair, monsieur.
Ouais, si vous arrivez en.
Si vous arrivez
en 16e de finale de la Coupe de France de basket.
Pourquoi pas. On peut s'engager l'année prochaine.
Ça marche aussi, ça.
Il y a une Coupe de France aussi, on pourrait s'engager.
Engagez-vous au moins sur les 8e.
Ouais, ça.
Bon. Rendez-vous est pris.
Non, mais c'est.
Mais qui ne tente rien n'a rien. Hein.
Exactement.
Voilà, si vous avez une super équipe, c'est bien.
Il faut recruter alors.
Alors, chère joueuse, basketteuse, future braqueuse, on vous retrouve sur Facebook dans l'immédiat si on veut faire simple.
Pour sur quel site
rendez-vous avec Mesut, par exemple, si on veut s'essayer, si on veut aller sur un entraînement. Et puis voilà quoi. À très
Parce
bientôt.
Que là pour cette fin de saison en fait c'est fini. Vous avez des matchs de gala.
Les féminines ont fini. Ouais. On a fini la saison ce week-end par une belle victoire 90-40 quand même.
90-40. Voilà. Ouais, là ça fait pas rire les scores.
Non.
Les joueurs de foot ils vont pas lire là. 90
non, puis c'était vraiment un dernier match super plaisant, tant pour nous, pour les adversaires qui se sont battus jusqu'au bout, même si elles voyaient que c'était pas perdu.
Au bout d'un moment, c'était dur. Ouais.
Mais elles ont marqué quand même 40 points, et il y avait la bonne humeur, tout le monde rigolait. Oui. C'était,
Mais bon, on mettait, y a sur certains matchs, on gagnait beaucoup de points, mais bon, c'est pas pour ça qu'on était contente. Qu'elles étaient contentes. Elles préfèrent que ça soit serré, qu'il y a plus d'envie. C'est pour ça que l'année prochaine, on préfère aller en région, comme ça au moins c'est plus serré, certes.
Mais ça vous fait progresser aussi.
Voilà.
Tout à fait.
Oui, parce que ce sera dans la difficulté qu'on va se resserrer.
De toute façon, tout à fait. Ouais.
Et on recrute aussi pour les seniors masculins, comme, comme c'est moi qui entraîne un petit peu les seniors masculins.
Aussi pour les braqueurs. Donc.
Ouais. Aussi pour les braqueurs, je suis à la recherche de nombreux joueurs.
En tout cas, on a une équipe super dynamique hein, dans ce studio là, de basketteurs et de basketteuses et d'entraîneurs. Donc on vous félicite déjà pour vos résultats.
Merci
et
beaucoup.
Et puis voilà, on vous encourage. On encourage aussi tout le public à aller voir les masculins qui n'ont pas terminé, je pense. Hein.
Alors ce dimanche, voilà, on va en profiter d'être ici. Ce dimanche à 11h du matin, donc au gymnase Saint-Privat, c'est le dernier match de l'équipe masculine. Et comme je disais tout à l'heure, s'ils remportent le match, ça leur fera 50% de défaite, 50% de victoire. D'accord. Donc il y a un petit challenge.
Non.
Comment
L'entrée est payante?
Non, bien sûr, l'entrée est gratuite.
L'entrée gratuite.
On peut même payer un petit coup après.
Donc rendez-vous dimanche matin.
On peut payer un coup à la fin.
À quelle heure?
11h.
11h. Oui, c'est pas trop
ça
tôt.
Ça laisse le temps pour les Mandois de se réveiller tranquillement et de passer au collège Saint-Privat.
Ouais, de soutenir notre belle équipe.
Il y a le rabat-joie Ludovic qui nous dit qu'on est encore une fois trop long. Mais ça suffit, on prend le temps qu'on veut.
Je peux juste faire une dédicace à toutes mes joueuses.
Oui, bien sûr.
Je félicite toutes mes joueuses pour cette année. Tout le monde se reconnaîtra. J'espère que tout le monde écoute 48 FM. Et merci à toutes et merci à Céline d'être présente à côté de moi.
Bravo.
Je vous en prie, c'est avec plaisir.
Voilà, donc à dimanche matin, 11h pour ce match masculin. Voilà, on va
merci
faire une
beaucoup.
Autre petite coupure musicale avec Biolay.
S'il m'arrive quelquefois de penser d'abord à moi, reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, ne m'en veux pas pour ça. Si je joue toute la nuit au poker ou au rami, reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, je ne joue pas ma vie. Si je suis désordonné, si j'oublie de t'embrasser, si je m'endors devant la télé, ne va pas dire à ta mère que tout en moi te désespère. Elle connaît ses problèmes avec ton père. Les hommes sont comme ça sans exception, crois-moi, alors pourquoi t'inquiéter? Les pommes de l'amour sont vertes et ont toujours un petit goût de danger. Si je vais au cinéma sans t'emmener avec moi, tout seul, crois-moi. Si j'aime bien me vanter de mes aventures passées, reste-moi fidèle, reste-moi fidèle, tout ça est oublié. Si je rentre après minuit, si je te réveille la nuit pour te reparler de mes ennuis, pourquoi dire à tes amis, à celles qui ont un mari, que tu me sacrifies toute ta vie? Les hommes sont comme ça, sans exception, crois-moi, alors pourquoi t'inquiéter? Les pommes de l'amour sont vertes et ont toujours un petit goût de danger. Reste-moi fidèle, car
48 FM Le Mag.
Et nous voilà pour cette troisième partie du magazine où nous venons d'accueillir Christophe Sos qui vient de nous rejoindre, président de l'ASA 2048, qui va venir nous parler de la montée historique. Et pour tout de suite, là maintenant, on vous propose un petit échange avec Ludovic Vesset. Donc, excusez-nous du titre quand même. Ludovic a eu l'année dernière le trophée du jeune bénévole. Il est co-président du comité des fêtes du Massegros. Il est co-responsable du comité départemental des médaillés de jeunesse et sport. Autant vous dire qu'on a un VIP avec nous dans les studios. Ludovic, très très investi sur le Massegros, et demain à la charge d'organiser la foire du Massegros. Bonjour Ludovic.
Bonjour et merci de m'avoir invité dans mon studio de 48 FM.
Ben, avec plaisir. Alors, je ne sais pas si on nous capte bien au Massegros, mais en tout cas, en streaming, c'est sûr, c'est possible, donc sur Internet. Donc, bonjour à tous nos éditeurs du COS. Et alors, Ludovic, cette foire a lieu demain. C'est une foire, ça veut tout dire ou rien dire. Une foire ancestrale, donc ça veut dire qu'effectivement on n'est pas à notre première édition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? À quelle heure ça démarre? Qui on rencontre? Enfin, on veut tout savoir.
Alors, une foire ancestrale, pourquoi ancestrale? Parce que c'était une foire qui avait lieu, 40 ans, déjà dans les rues du Massegros, et qui a été arrêtée donc, pendant une vingtaine, trentaine d'années. Et à la demande de quelques membres du comité des fêtes, nous avons donc décidé donc de relancer cette foire en gardant les bases qui étaient là à l'époque.
Donc demain, à quelle époque vous parlez? C'était au 19e? En 1800 et quelques ou
non,
un peu 19e, plus
tard? Non, 19e. Alors si mes souvenirs sont bons, je dirais 1900, après la Première Guerre.
Donc au 20e, ouais, d'accord. Voilà. 1935, ouais, voilà. 1940.
Voilà.
Donc c'était le 20e, hein, je vous dis. C'était le 20e siècle.
20e siècle. Ouais,
Moi, j'ai toujours perdu.
Maintenant, on est passé au 21e. Ouais. Mais en même temps, c'est déjà bien, le 20e siècle. C'était bien loin.
T'es né, toi, au 20e siècle.
Je suis né au 20e siècle.
Au siècle dernier.
C'est
fou. T'es ancestral aussi, quand même.
Ouais, tout à fait, ouais.
Merci. Donc, vous repartez sur les bases de ces foires d'antan. On va appeler ça comme ça.
Tout à fait.
Avec de la présence animale,
Présence animale. Ouais. Un petit parc avec des cochons, des brebis, des moutons. La présence donc et le soutien du syndicat de la race Limousine qui vient donc sur la foire toute la journée, faire de la dégustation gratuite donc de viande et nous présenter également bien sûr la race Limousine et les bêtes quoi, donc soit la vache ou le taureau. Donc pour la partie animaux.
Donc on peut se tailler une côte de bœuf là gratos quoi.
Pas la côte de bœuf parce que sinon ça nous coûterait cher, mais au moins venir déguster un très très bon morceau de viande. Ouais. Tout à fait.
D'accord, ça c'est sympa.
Oui, mais disons que c'est original. De... Ouais. Et voilà, quoi, c'est une idée qui vraiment nous a plu et qui amène du monde. Quoi.
En fait, là, on voit un rapprochement, si je peux le permettre, avec la patch un petit peu. C'est un petit peu dans la même idée. Quoi.
Tout à fait, hein, tout à fait.
Sauf que là, c'est ancestral, je te rappelle.
C'est vrai.
Et donc, qui on a parce que donc, comme c'est ancestral, forcément, vous n'êtes pas à votre première édition. Au niveau des bilans, par exemple, l'année dernière, vous êtes pas que entre gens du Massegros, j'imagine que vous touchez un public beaucoup plus large.
On touche un public large, puisque l'année dernière, à vue d'œil, on a donc eu entre...
Selon les autorités et
à notre avis, on a eu entre 2000 et 3000 personnes sur cette foire, sachant que le temps, et comme cette année également, n'était pas au beau fixe.
Mais demain, il fait beau, Ludovic.
Ah bon, déjà,
faut croiser les doigts.
C'est tout.
Ça arrive. Hein.
C'est tout. Monsieur Soleil, s'il peut venir. C'était
prévu. Nous, on fait la météo à 48 FM. Et donc, on a prévu du beau temps le Massegros demain. C'est clair.
Chez nous, de toute façon, il fait toujours très beau.
Mais ça, c'est vrai.
C'est très ensoleillé ici.
Tout le monde est radieux dans le studio. Et donc nous avons ces animaux donc, de la ferme. À côté, nous avons des tracteurs neufs. Démonstration de tracteurs neufs. Et exposition de tracteurs anciens. Donc voilà, ça aussi également, ça attire beaucoup de monde.
Avec des moteurs Bernard, les vieux tracteurs.
Vieux tracteurs. Plus c'est vieux et plus c'est beau, plus ça fait de bruit. Et plus les gens en raffolent.
Je savais pas que tu étais un spécialiste du tracteur.
Ah si, si, j'ai un tracteur chez mon père, un vieux tracteur Bernard, un vieux moteur. Ça tourne comme des horloges.
Et plus ça fait poum poum, ouais, et plus il y a de monde
qui vient voir. Qui vient voir.
À côté de ça, un vide-grenier. Donc dans les vieilles rues du Massereau, vraiment pour garder cet aspect ancestral, quoi, en fait. Et après, donc, dans la rue principale et dans la rue de la maison de retraite, comme on l'appelle chez nous au Massereau, eh bien, donc, les 80 exposants. Aujourd'hui, quand je suis parti, il y a de tout.
D'accord, c'est un marché artisanal, quoi.
Oui, mais après, on trouve de tout. On peut trouver des bijoux, on peut trouver
des poteries,
des fleurs, des plants, voilà, quoi.
Ah oui, d'accord.
Quand, aujourd'hui, quand je suis parti, la personne donc, qui est responsable donc, de chiffrer le métrage donc, des exposants sur la foire me disait qu'on était à plus de 700 mètres, alors que l'année dernière, on était qu'à 450 mètres, on touchait les 500 mètres.
700 voilà. mètres d'exposants.
700 mètres d'exposants au total.
Proche du kilomètre au niveau de, la, de l'exposition et de la présence des commerçants.
C'est bien,
donc, sur, sachant que ça va de l'agroalimentaire aux vêtements, en passant par.
Les plants, les maraîchers, les fruits.
J'ai l'impression que c'est en train de refleurir, enfin, en train de ressurgir un petit peu tous
le
ces.
Commerce, comme ça, le,
toutes ces foires, parce qu'on a parlé, on a présenté la fois dernière aussi. L'expo qui avait lieu au Bourrel, hein, qui est un peu sur le même principe aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de monde au Bourrel, tu as pu y aller
Non, je n'y ai pas pu y aller.
Et voilà, il y a une espèce de dynamique comme ça, de retour. Alors, ce n'est pas un retour à la terre, mais c'est une forme de se réapproprier l'espace rural, de redécouvrir tout ce qui est jardinage, d'être à l'extérieur, de partager, comme vous le proposez, hein, un petit peu des morceaux de viande, tout ça. Mais c'est aussi un petit peu une façon de se retrouver.
Hein, c'est comme ça, tout à fait. Une fois, du lien social. Hein, on parlait tout à l'heure du lien social, de l'art, du sport. Et je pense que c'est aussi dans ces villages une attente forte de se retrouver autour de...
Dans le milieu rural, comme le village du Massereau, c'est très, très fort. Et d'ailleurs, ça ressoude les habitants. Et juste pour vous dire, sur 300 habitants, nous avons quand même plus de 70 bénévoles au comité des fêtes, avec une dizaine qui viennent de l'extérieur du village. Donc pour vous dire que vraiment le tissu associatif est très important et le comité des fêtes du Massereau représente vraiment un poids important pour le village.
Et puis vous êtes aussi un petit peu sur un axe qui est intéressant, vous êtes à 9 km de la 75,
tout à fait.
À 10 km de Sévrac-le-Château.
Oui, hein, tout à fait.
Donc c'est vrai que ça amène aussi un petit peu de monde parce que les gens de Sévrac viennent souvent au Massereau, hein.
Tout à fait. Ouais,
il y a beaucoup d'Aveyronnais dans le coin là.
Il y a même plus d'Aveyronnais que de Lozériens, si on peut se permettre.
Cher Aveyronnais, si vous nous écoutez,
mais bon, c'est
bonjour.
Ce sont nos amis, même si.
Tout à fait.
Même si de temps en temps, ils viennent un petit peu chasser sur nos plates-bandes des Avernais, hein, un petit peu, ils ont non, tendance
on
un petit peu à.
Ah, hein, oui. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est au Massereau que ça se passe, c'est en Lozère. Et effectivement, on a un événement de grosse ampleur. On imagine, Ludovic, que vous vous ennuyez pas cette semaine. 70 bénévoles à coacher, 80 exposants.
Je ne suis pas tout seul, parce que vous savez que j'ai un coprésident maintenant, puisque j'ai pris des fonctions
oui,
au niveau
c'est coprésident.
Du comité départemental des médaillés de jeunesse et sport. Un coprésident qui est principalement sur le terrain. Moi, j'ai pris tout ce qui était plutôt relations extérieures. Je pense que lui, il fait un grand effort. Mais je pense vraiment que 70 bénévoles qui travaillent tous ensemble et tous dans la même direction, vous savez, c'est toute la force qu'on peut donner à un président, en fait.
Bon, voilà, on c'est bien, un président.
En tout cas, nous,
on
invite tout le monde à demain matin, jour de repos, aller se balader dans Massereau, faire son marché. Il devrait faire beau. Profiter voilà, de ce qui vous est proposé par le comité des fêtes.
À quelle heure vous nous accueillez?
Et bien, pour les Manoums, comme
voilà, bien. Tout à fait, pour les Tripous, à partir de 8h à la salle des fêtes du Massereau. Alors j'espère que le record sera battu, puisque l'année dernière, on avait fait plus de 150 déjeuners aux Tripous le matin.
Ah ouais,
donc j'espère que...
À 7h
À 8h, on attaque 8h. De 8h à 11h, on sert 150 repas. Donc j'espère que voilà, on va encore un petit peu plus monter.
Ça, c'est bien, ouais.
Voilà.
Bon, moi, je vais essayer de venir demain.
Ça, c'est du petit déjeuner. Hein.
Ouais. Et je vous prends au défi, si vous venez, ben, on vous offrira même le déjeuner au Tripo, on sera fier de
c'est noté à l'ordre
d'accueillir les animateurs de 48 FM au Tripo. Ça, je peux vous dire que ce serait une sacrée expérience. Ma belle-mère ne me croirait pas. ça fait déjà 20 ans qu'elle essaye de me faire manger des tripous. Donc, on démarre au petit déjeuner à 8h et
petit
on
déjeuner.
Finit à la nuit tombée.
À la nuit tombée, vers...
Il y a des rendez-vous un peu importants dans la journée qui sont
Toute la journée, il y a de l'animation, hein, puisqu'il va y avoir donc de l'animation pour les enfants, manège, présence de manège, château gonflable, clown, voilà quoi. Je veux dire, toute la journée, les rues seront animées. Le but est de, si la personne vient à midi, et autant d'animation que la personne qui viendra à 17h.
Quoi. Bah, l'idée, c'est qu'elle vienne à 8h et qu'elle ne vous lâche plus. Quoi,
qu'elle reste avec nous jusqu'à 18h. On la gardera, elle sera très très bien accueillie.
Bon, très bien. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci au comité des fêtes du Massego. Puis on espère que demain, ça va très très bien marcher. On se fera l'écho, de toute façon, de ce qui s'est passé sur le Massego, de ce qui va se passer sur le Massego.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci.
On va enchaîner directement.
Voilà, peut-être sans sur transition
notre
musicale,
dernière invitée.
Cette fois-ci avec Christophe Sos, président de l'ASA 2048. Alors, sans transition, on passe au sport automobile sur la montée historique. Alors, on était sur une foire ancestrale, on est sur une montée historique, on reste dans l'histoire. C'est un projet, je crois, que vous avez depuis... Puis maintenant un moment et que vous mettez en place cette année concrètement. Christophe, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ?
Bonjour déjà.
Bonjour.
Tous les deux. Écoutez, la montée historique, c'est un projet qu'on a depuis 3 ans à peu près. Bon, l'année dernière.
Et qui n'avait jamais été fait ?
Non, sur un Lozère, ça ne s'est jamais fait. C'est quelque chose qui est en train de monter en ce moment.
Ça s'était fait en moto, je crois. Hein.
Ça s'était fait, fait en moto. Ouais.
Historique.
Ouais. Et en fait, ça permet, on est un peu moins limité au niveau organisation. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de chronométrage. Oui, voilà, ça reste une démonstration. Ouais. Hein. Donc, c'est quand même le côté convivial qu'on recherche le plus. Ça permet à des personnes qui ont des voitures qui traînent dans leur garage de les sortir, de les montrer aux gens et de rouler avec, surtout sur route fermée, donc se faire plaisir. Parce qu'il y a quand même quelques belles voitures. Et voilà, donc ça nous tenait à cœur. Bon, l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Et cette année, c'est la première. Et on espère, comme au Massego, qu'il fera beau, déjà.
C'est prévu aussi.
C'est prévu aussi.
On a prévu aussi.
Et puis voilà, on croise les doigts. On est quasiment complet au niveau des inscriptions.
Ça veut dire combien de véhicules ?
Ça veut dire, on a limité à 60. Hein, et on doit être à 50, entre 50 et 55.
D'accord. Voilà. 55 véhicules ou 55 équipages ?
Non, véhicules.
Véhicules, d'accord.
Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui partent en double monte, comme on dit, c'est-à-dire qui partent à 2.
D'accord.
Mais sinon, la plupart sont tout seuls.
La montée historique, c'est la montée Jalabert ?
C'est la montée Jalabert, oui.
Donc, qui fait combien de kilomètres ?
Elle fait 2,3 km. On ne va pas jusqu'en haut, quand même.
D'accord. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de faire des départs avec... faire ronfler un peu les moteurs, non ?
Ah ben, l'idée, oui, c'est quand même d'apporter... L'idée, à la base, c'est d'amener une animation sur Mende. C'est vrai qu'on est une toute petite association, nous, par rapport à la Zalozère, qui organise des gros rallyes et tout. Ouais. C'est une grosse association. Nous, on est tout petits, on est à peine même pas 40 licenciés. Donc, c'est difficile pour nous de faire autre chose. Donc, on a trouvé ça. Et puis, l'idée, c'est surtout d'amener de l'animation sur Mende. Et le gros avantage, c'est de pouvoir partir de Mende, enfin, du centre-ville, quasiment. Ouais. Et
donc ça, là, le rendez-vous, c'est où ? C'est le Forail, c'est ça ?
Alors, tout va se passer au Forail, ouais. Et le départ se passera juste en dessous du commissariat,
d'accord.
Avec une arrivée ouais. 800 mètres avant le croisement de la Croneuve.
2 km de montée, c'est ça ?
2 km 3 à peu près, ouais. Oui. Avec une chicane quand même au niveau du cimetière Saint-Gervais, parce que c'est un peu rapide là, donc on ne veut pas qu'il y ait d'accident. Donc en plus, on va quand même faire exactement comme si c'était une course, c'est-à-dire avec des zones interdites aux spectateurs. Et bien sûr, on demande aux spectateurs de les respecter. Il y aura des commissaires. Et bon,
d'accord, comme une vraie course, en fait.
Ah oui,
tout est organisé.
Ah oui,
façon,
ça reste une démonstration parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Mais c'est exactement comme une course. Et nous, au niveau de la préfecture, on demande de bien respecter toutes les consignes de sécurité.
Alors, les voitures, elles ont une cylindrée spécifique ? Elles ont des critères ? Ou est-ce que c'est simplement l'année de...
Oui, à la base, c'est quand même l'année. Mais on a quand même une petite partie à côté. Disons que c'est des véhicules qui doivent être immatriculés avant 1985.
Ah d'accord, avant 1985.
Ou d'exception. Voilà. Donc,
c'est-à-dire,
par exemple. L'exception, on a une Ferrari quand même.
C'est pas d'accord.
Voilà, on a une Ferrari qui est de 2002.
C'est pas ma Fiat Panda.
Mais enfin, si elle est avant 85, pourquoi pas ? On a une R16. Hein.
Ouais, elle est avant 85. Je vous promets.
Pourquoi pas ? Mais après, voilà, il y a un panel de voitures. Bon, il y a des
Ferrari,
Porsche, il y a des
Porsche, voilà, y a Mustang.
C'est assez éclectique, c'est super. Ouais. On pensait pas du tout avoir autant de monde, on pensait pas avoir autant de voitures différentes. Je regardais un peu les années, bon, ça part de 1970, 69.
69 la première,
voilà,
et
voilà,
puis jusqu'à
2000, et quelques. Je comptais tout à l'heure, il y a 13 départements représentés. Donc bon, voilà, ça...
Les gens ils viennent d'où alors de
ce plutôt sud, hein, c'est plutôt sud. Ouais, plutôt ouais. Sud.
La région de Croussillon, voilà, Marseille, plutôt, PACA.
Oui, il y a PACA aussi. après, au-dessus, quand on a des Cantalous là, qui chaque année veulent
pour les Ferrari et Porsche, non
ouais, on n'a pas de Saint-Trope, non, je crois pas. Non, pas de 83, non.
Ils ont des grelottes, ils ont peut-être vendu des voitures.
Et quelques Aveyronais, voilà. C'est vrai que je trouve que c'est bien, ça va amener un peu d'animation. C'est sympa.
Non seulement ça amène de l'animation, ça amène effectivement, encore une fois, ça met Mende et la Lozère en avant sur des manifestations méca, hein. bien spécifiques qui, effectivement, sur le sport mécanique, c'est la Lozère a une place privilégiée et vous continuez à vous inscrivez en tout cas clairement dans cette logique. Donc, si on veut venir voir la montée, ça se passe comment? Comment on s'organise? Moi qui suis, j'ai jamais fait ça. Je veux venir vous voir jeudi. Comment est-ce qu'il faut que je m'organise?
Je pense que la première chose à faire, c'est venir voir les voitures sur le foray.
Déjà,
à partir de quelle heure?
Donc en fait, les vérifications vont commencer vers 7h30 jusqu'à 9h. Et la première montée de reconnaissance va être vers 9h30, 10h à peu près. Et jusqu'à midi. Après, on ouvre la route pour permettre aux gens de monter au restaurant de l'aérodrome. On ne va pas bloquer la route, donc de midi à 1h30. Et après l'après-midi, c'est la démonstration. Donc les pilotes auront reconnu, donc ils pourront un peu plus se lâcher. Voilà. Après, donc le plan, c'est d'aller un peu voir les voitures et puis après de monter.
Les endroits stratégiques, c'est où là?
Ben, le départ déjà. Ouais, parce qu'il y a quelques voitures qui doivent être intéressantes à voir démarrer, faire entendre surtout. peut-être éviter les petits enfants là, à cet endroit-là. Et après, si vous montez un petit peu au niveau du collège Saint-Privat, on a un petit parking qui nous permet de stocker un paquet de monde là. Après, jusqu'au croisement de la rue du Torrent, ça va être compliqué. Il y aura beaucoup de zones interdites quand même aux spectateurs. Après, donc, au croisement de la rue du Torrent, là, il y aura quelques zones. Et puis après, bon, il y a les épingles. Les épingles, c'est quand même intéressant. Ah ouais. Il faut marcher un petit peu, mais ça peut être... L'avantage, c'est qu'il y a pied, ouais. En remontant un petit peu, si en plus il fait beau, on a le pique-nique, ça ouais. Peut être sympa parce qu'on voit quasiment toute la montée. Voilà.
Très bien, mais c'est bien. Donc, des équipages, ils sont deux à chaque fois?
Ah non, tout seul dans la voiture.
Ah, ils sont seuls.
Ah oui, ils sont seuls.
Tout seul. Oui,
d'accord.
Non, pas de copilote. Non.
Pas de copilote. D'où l'importance de la reconnaissance du matin.
Voilà, oui. Ça reste vraiment une démonstration. Donc voilà, il n'y a pas de chrono. Voilà. L'important, c'est qu'ils se fassent plaisir sur une route fermée. Ça évite les problèmes. Donc pour eux, c'est très bien. Mais voilà, c'est quand même le plaisir avant tout, quoi.
Bien sûr, le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles, si j'ai bien compris.
Ah, je pense qu'il y en a quelques-unes de voitures qui vont pétarder. Vont faire mal. Oui, on s'excuse auprès des riverains, on les embête un peu, mais bon. Il y aura le trèfle après, il y a le Gymkhana 3 jours après. C'est vrai.
Alors
que
c'est
là...
quoi le Gymkhana? C'est un peu plus tard.
C'est en fait, on est un peu jumelé avec le comité des fêtes qui organise le Gymkhana, donc on leur aide et eux ils nous aident aussi.
D'accord.
Et eux ils organisent le Gymkhana qui aura lieu dimanche. Et là, bon là, c'est sur le foray uniquement. Et ça aussi, c'est quelque chose à voir au niveau du bruit, au niveau du spectacle. Il y a beaucoup de spectacles. Et l'avantage, c'est que tout est...
C'est un circuit fermé sur le foray, comme chaque année,
avec des cônes, voilà. C'est
co-organisé avec l'UFOLEP.
Voilà, oui, c'est l'UFOLEP qui fait le classement et tout. Ouais. Donc, on a jumelé les deux pour enlever les désagréments. Donc, on prend Saint-Ilpide et le foray pour 3 jours et on ne bouge plus.
C'est ça.
On s'installe, on met les tentes et...
Vous vous installez sur le foirail et donc du coup on peut voir des...
On peut faire des photos
oui, y a pas
avec des véhicules.
Ah mais là c'est pas un parc fermé, hein. C'est pas comme un rallye où dans le parc fermé on n'a pas le droit. Là ça sera ouvert et les pilotes seront ravis de
d'accueillir discuter les gens avec les...
Ah oui, c'est quand même voilà, c'est très convivial. Et ils seront ravis de parler de leur voiture parce que c'est leur petit bijou, je pense.
On va encore créer du lien social. Ouais.
Ils sont ravis. Là, il y en a qui ont déjà téléphoné ce matin parce qu'ils étaient arrivés au Faubourg Montbel avec leur camping-car et qui voulaient aller reconnaître et qui voulaient avoir leur numéro et qui m'ont appelé ce matin pendant que je travaillais. Impatient. Et voilà, ils veulent aller voir. Alors au foray, il y avait le marché, donc ils étaient embêtés.
Bien sûr.
Ils voulaient aller voir où c'était. Et donc ils sont impressionnants de patience, ces gens. Bon, c'est beaucoup d'anciens quand même, hein.
Oui,
mais voilà, ils sont ravis de sortir leur voiture.
Donc ils nous écoutent forcément, vous leur
avez dit. Oui, bien sûr.
Et donc voilà, un nouveau rendez-vous pour aller voir les Alpina 310, les Rally 3, les Austin Mini, les 4 chevaux, et puis d'autres voitures plus prestigieuses, on peut dire ça comme ça, hein, comme des Ferrari, des Porsche, des Mustang.
On a en ouverture, pour ceux qui le connaissent, Eric Rousset, qui a été 2 fois champion de France des rallyes amateurs, il y a quelques années. Voilà.
Du beau monde en plus.
Du VIP.
Voilà, ouais, du VIP.
Super. Super. Mais un grand merci donc, pour voilà. ce témoignage.
Merci de m'avoir invité, c'est super sympa.
Mercredi au Massegro et puis jeudi voilà. matin dès 9h30.
Après,
ouais,
après les manoules, là, ça, voilà, après les manoules. Ça va être dur c'est à ça. Redémarrer. Voilà.
Vous voilà avez votre week-end, votre pont, votre viaduc qui, voilà. qui est tout occupé.
N'hésitez pas.
Et si
c'est
vous
pas
restez...
la peine d'aller à la mer.
Ah non,
on reste à Lausanne. Profitez des belles choses.
La route est coupée.
Oui, en plus, oui, ça ne peut pas passer.
Et bravo pour... à vous en tout cas et bon courage.
Merci, merci beaucoup.
Et pour ceux qui en redemandent et qui seront en Lozère et qui voudront nous écouter, ils auront dès ce soir à 18h11 la rediffusion d'Actu, elle et lui, avec au programme les box, les jours fériés, la presse féminine et masculine, avec, il faut bien le dire, notre chouchou Guillaume, qui est co-animateur de cette émission. Jeudi à 16h, plateau radio en direct du Festival DOT. Alors attention, là on vous annonce du lourd. 48FM va, dans le cadre d'un partenariat avec le Festival DOT, couvrir cette soirée en direct. Donc là, pour nous, c'est
tout à fait. On va aller là-bas. Voilà.
Et c'est déjà un nouveau partenariat. Et puis, on s'essaye au direct en concert.
On s'essaye, oui.
On s'essaye sur du chapiteau, en tout cas, je crois.
Sous du chapiteau, voilà. En direct avec des artistes qui viennent.
Et donc, quand même, du peu. Hein, donc, les CAC, Thomas Schaeffer Junior, Mountain Man. Pour cette soirée et donc avec nos animateurs préférés et votre radio préférée qui couvre en direct le Festival DOT. Lundi à 17h, on continue dans du direct et à couvrir de l'événementiel avec l'émission du Cercle des journalistes de la Lozère en direct de l'IUP à l'occasion du colloque Lozère 2020. On rejoint toujours... notre chouchou, et de la présentation de la campagne de promotion là, de la Lozère. Donc on est sur un sujet peut-être un peu plus sérieux, mais on est là toujours en direct et on couvre l'événement avec les journalistes de la Lozère. Et on finira mardi à 12h30 avec le MAG, votre rendez-vous hebdomadaire, et avec un spécial éducation.
Tout à fait, t'as bien résumé.
Sacrée semaine, donc vous ne quittez pas la Lozère, vous ne quittez pas 48FM, vous restez en direct avec nous.
À bientôt.
Au revoir.